Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Bali Bagayoko, chef de file de la France insoumise à Saint-Denis et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors cette semaine a été organisée la semaine de l'Union des quartiers populaires. Vous avez vous-même organisé une réunion à Saint-Denis il y a 2 jours. Est-ce que les quartiers populaires sont les grands oubliés de cette campagne électorale Bali Bagayoko?
En tout cas, c'est le message que l'on entend, c'est le message d'avertissement aussi que ces quartiers populaires lancent. Et Jean-Luc Mélenchon, avec l'ensemble de son équipe, a entendu ce message. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déjà consacré un livret important. Donc, il y a plus de 300 propositions qui sont portées dans le cadre de ce livret, en destination, bien sûr, des quartiers populaires. Donc, nous ne souhaitons pas, comme les années antérieures, que cette élection de 2022 fasse à nouveau un oubli sur quasi 50% des populations qui vivent dans ces quartiers populaires.
Alors, quelle est la priorité, justement, de Jean-Luc Mélenchon pour ces quartiers populaires?
La priorité, c'est déjà de créer les conditions pour que la République entende le cri d'alarme, en fait, qui est monté dans ces quartiers populaires. Ça se traduira, bien sûr, par un premier volet qui porte sur l'éducation. On sait que dans ces quartiers populaires, l'éducation est aujourd'hui complètement mise à mal, avec, bien sûr, des enseignants qui ne sont pas bien remplacés, avec un nombre important d'élèves dans les classes. Et donc la proposition de Jean-Luc, c'est à la fois de renforcer les moyens financiers avec 60 000 emplois qui vont être créés, créer les conditions bien sûr de lutter contre la précarisation de ces enseignants et surtout créer les conditions pour dédensifier les classes dans les quartiers populaires.
Et les élèves de votre département, la Seine-Saint-Denis, sont très angoissés par Parcoursup. Ils doivent finaliser leurs vœux, en tout cas écrire les lettres de motivation d'ici quelques jours. Et parfois, le nom de leur lycée peut les empêcher d'accéder à certaines formations. Et Parcoursup est aussi discriminant dans la mesure où certains élèves ne savent pas écrire des lettres de motivation. Est-ce qu'il faut entièrement réformer l'école pour qu'elle soit plus égalitaire?
Avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes pour purement et simplement l'abrogation totale et complète de Parcoursup. Donc si nous arrivons demain en responsabilité, ce qui sera le cas le 24 avril 2022, nous supprimerons purement et simplement Parcoursup pour justement créer les conditions que ça soit un dispositif qui soit un dispositif davantage égalitaire et qui soit pas un dispositif discriminant. Parce que clairement, ce dispositif technologique basé en fin de compte sur des modèles mathématiques crée précisément des inégalités et ces inégalités frappent de plein fouet les habitants des quartiers populaires.
Bali Bagayoko, le pouvoir d'achat est le sujet de préoccupation numéro un des Français. Jean-Luc Mélenchon, président, parviendra-t-il à encadrer les prix des produits de base, de l'énergie et des loyers, par exemple, puisqu'aujourd'hui, c'est la fin de la trêve hivernale?
Clairement, c'est la fin de la trêve hivernale et donc c'est une pensée aussi à l'endroit de celles et ceux qui vont être confrontés à la fois une forme de pression qui peut être portée à l'endroit de ces personnes qui vivent des situations difficiles. Donc Jean-Luc a été très clair, sa volonté c'est par décret créer les conditions de sorte à ce que très rapidement nous puissions d'abord bloquer les prix. Donc ça c'est une disposition qui ne nécessite pas de passer par la loi. La deuxième chose c'est bien sûr très rapidement de créer les conditions pour que la question du SMIC soit revalorisée. Donc c'est 1 400 € qui est proposé. Mais c'est aussi de créer les conditions pour que les jeunes soient concentrés sur leur enseignement, de sorte à ce que l'on puisse avoir des moyens financiers, donc autour de 1 063 € qui leur seront octroyés pour pouvoir se concentrer dans l'enseignement de leur approche professionnelle. Puis l'autre aspect qui nous semble essentiel, c'est aussi de créer les conditions pour que la question donc de l'encadrement des prix du loyer, ça passe aussi sur la question de l'énergie. On sait que dans les quartiers populaires, le mal-isolement est un important fléau aussi qui frappe ces quartiers populaires, donc il propose, dans le cadre de son grand plan, 200 milliards qui porte sur la question de la bifurcation écologique, c'est 200 000 donc, logements qui seront complètement remis en état, donc 70 000 par an, donc ce qui est quand même un effort relativement conséquent.
Je fais une parenthèse sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. Ce qui le caractérise, c'est la planification. Vous avez évoqué la planification écologique, mais tout sera planifié sur le court, le moyen et le long terme.
Clairement, Jean-Luc Mélenchon est le seul d'ailleurs à avoir chiffré l'ensemble de son programme, mais aussi à avoir créé les conditions de planifier. Et en indiquant cette planification, c'est aussi de dire, demain, lorsque nous serons en responsabilité, nous serons en capacité de pouvoir tout de suite dire sur la première année, la deuxième année, ce qui sera fait. Donc on a à peu près une quarantaine de plans en réalité qui vont être délivrés très prochainement, une trentaine déjà le sont. On a pas loin d'une quarantaine aussi de livrets, d'ailleurs, thématiques qui portent sur un certain nombre de politiques publiques qui concernent les habitants. Et donc, l'idée que nous avons derrière l'ensemble de cette planification, c'est de dire qu'au moment où la population est en attente très forte de politiques publiques progressistes, nous sommes en capacité à la fois de répondre à cette invitation, mais nous sommes surtout en capacité demain de pouvoir gouverner de manière, bien sûr, par les besoins.
Bali Bagayoko, la France insoumise et l'Union populaire militent pour l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations. Récemment, un testing de SOS Racisme a montré que des agences immobilières pratiquaient la discrimination dans l'accès au logement. Jean-Luc Mélenchon va-t-il réussir à mettre fin à ce racisme du quotidien ?
Ce qui est certain, c'est qu'il ne renoncera pas à agir, contrairement à celles et ceux qui se sont contentés de soit faire du bavardage, ou soit s'endormir dans leurs responsabilités. Il est très clair sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments documentés qui montrent qu'il y a du racisme, mais qu'il y a surtout des inégalités et qui frappent de plein poing les concitoyens qui sont dans les quartiers populaires ou qui ont des noms à consonance afro-maghrébène. Voilà, donc ça c'est une réalité concrète. Et à partir de là, il nous faut agir. Donc Jean-Luc Mélenchon est très clair de ce point de vue-là. Il y aura bien sûr des moyens qui seront mis pour justement sanctionner davantage, mais surtout pour contrôler en particulier les entreprises et d'ailleurs les services publics. Hein, parce qu'on sait aussi que la question de la discrimination et du racisme touche l'ensemble d'ailleurs des secteurs et particulièrement dans le secteur privé.
Et finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il ne suffit pas de décider une loi, que ce soit pour lutter contre les discriminations ou pour autre chose. Il faut aussi contrôler que ces lois sont bien appliquées.
Clairement, donc la gouvernance à la fois Castex et puis son président Macron montre de toute manière que le résultat n'y est pas, puisque nous regardons aujourd'hui les éléments montrent de manière concrète qu'il y a quasi une augmentation en fin de compte de ces phénomènes, qu'il n'y a en tout cas de manière certaine pas eu une réduction des phénomènes de discrimination et de racisme. Et donc nous sommes pour à la fois déjà remettre des moyens, puisqu'aujourd'hui il y a les grands discours qui sont faits avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur, à la fois je veux de l'ambition. Jean-Luc Mélenchon souhaite mettre des moyens à la hauteur de l'ambition et surtout créer les conditions de traquer celles et ceux qui se permettraient de continuer à discriminer une partie de la population.
Jean-Luc Mélenchon a pris position clairement contre la loi séparatisme qui a permis à l'État de dissoudre plusieurs associations considérées comme séparatistes. Est-ce que s'il est élu, il reviendra sur cette loi ? Et puis, j'ai envie de vous poser la question, quelle est sa conception de la laïcité puisque d'autres responsables politiques n'ont pas la même conception ?
Ce qui est très clair, c'est que Jean-Luc Mélenchon déjà a fait partie avec l'ensemble des parlementaires insoumis à la démarche qui a été engagée avec d'ailleurs 71 autres parlementaires dans une action en direction du Conseil constitutionnel pour justement combattre ce projet de loi à l'époque et qui est désormais une loi. Donc le Conseil constitutionnel a été saisi par ces différents députés dont des parlementaires insoumis ont pris part à la bataille avec précisément, je veux dire, trois éléments. Premier élément, c'est que nous étions contre et nous continuons à l'être sur l'article 6, l'article 7, l'article 8, donc qui porte précisément sur la question de la manifestation disproportionnée de la liberté des associations, donc c'est la remise en cause principalement du droit d'association. Et puis, l'autre aspect qui nous semble aussi essentiel, c'est l'article 18, qui portait sur la question de la droit à la sûreté et fait peser derrière une grave menace sur la liberté d'expression. Et donc, demain, si nous sommes en responsabilité, nous reviendrons sur cette loi, parce que c'est une loi qui est, nous le disons encore, qui pointe de manière assez scandaleuse une partie de la population, principalement la population musulmane, et nous sommes pour le respect de l'ensemble de celles et ceux qui sont des nôtres et qui sont principalement, je veux dire, les enfants de la République. De ce point de vue-là, la question de la laïcité, nous l'assumons pleinement et entièrement. Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de l'évoquer. Nous sommes pour la loi de 1905 et entièrement la loi de 1905 qui ne nie pas l'existence du fait cultuel et qui permet à ce que celles et ceux, en tout cas nos citoyens qui sont de confession musulmane ou autre d'ailleurs, et puis après il y a aussi ceux qui n'ont pas de confession musulmane, il faut que ça se respecte, doivent pouvoir permettre de pouvoir prospérer de manière digne et responsable. Et
qu'est-ce que vous répondez aussi aux adversaires politiques de Jean-Luc Mélenchon qui ont un programme qui vise aussi à lutter contre l'islamisme en France ?
Il y a la question de lutter contre l'islamisme, et encore je pense que c'est plutôt le terrorisme qui est encore... Un autre sujet, parce que parfois on voit bien que dans l'usage de certains mots, il y a une forme de confusion générale. Certains se complaisent à maintenir en fait cette confusion, parce qu'en réalité leur adversaire premier, c'est la question de celles et ceux qui sont aujourd'hui de confession musulmane. Donc nous ne sommes pas pour ça. Sur la question de l'intégrisme, bien sûr que nous sommes véritablement pour que le droit culturel puisse à la fois s'exprimer, mais qui s'exprime dans le cadre du respect. Et d'ailleurs, nous pouvons faire confiance parfaitement, je veux dire, à celles et ceux qui sont de ces confessions musulmanes et qui pratiquent de manière d'ailleurs modérée, qui pratiquent de manière sérieuse leur religion, qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Et nous pouvons aussi compter sur cette communauté pour justement aussi mettre de l'ordre dans le registre de ce qui est le fait cultuel.
Sur l'immigration, Bali Bagayoko, Jean-Luc Mélenchon mettra-t-il fin aux restrictions actuelles de visa qui sont imposées aux pays du Maghreb? Est-ce qu'il régularisera aussi les sans-papiers? Vous en connaissez dans votre ville de Saint-Denis, ils travaillent, mais en même temps, ils n'ont pas la possibilité de bénéficier des aides sociales auxquelles ils auraient droit s'ils étaient régularisés.
Clairement, donc Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de le dire, il n'est pas du tout pour une Europe de forteresse. Donc il est à la fois pour le fait de permettre à ce que nous ayons un système qui soit suffisamment harmonisé du point de vue de l'asile européen. Il régularisera l'ensemble des travailleurs, les étudiants, mais aussi les parents d'enfants qui sont scolarisés et qui sont sans papier. Il créera les conditions d'ailleurs pour autoriser les demandeurs d'asile à exercer un emploi et va instaurer un programme de maîtrise de la langue française, tout en créant une condition d'ouvrir de nouveaux droits, puisque tous les étrangers auront le droit de vote aux élections locales et européennes. Donc aujourd'hui, n'existe pas pour bon nombre d'enfants et voire même d'adultes qui vivent sur le territoire français.
C'était une promesse
de François Mitterrand, qui n'a pas été mise en œuvre. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons l'intime conviction que ça sera précisément mis en œuvre. Et puis un dernier aspect quand même, c'est la question d'organiser une conférence annuelle sur l'immigration et créer un statut de réfugié climatique, parce que l'on sait que dans la situation géopolitique, mais aussi climatique que nous traversons, il y aura énormément de personnes qui seront déplacées.
Bali Bagayoko, la question mémorielle est aussi un sujet important pour Jean-Luc Mélenchon, je crois. Est-ce qu'il sera le président qui reconnaîtra les crimes de la France dans la colonisation? Certaines associations réclament par exemple que l'on reconnaisse officiellement les massacres du 8 mai 1945 à Sétif et Guelma.
Jean-Luc il l'a dit avec en fait le concept qu'il a beaucoup évoqué autour de la créolisation, c'est-à-dire que l'idée de dire que la France en fait se nourrit de l'histoire de chacun et chacune de celles qui la constituent. Donc à partir de ce fondement, qui s'oppose d'ailleurs à tous ceux qui sont sur le processus d'assimilation, ou voire même qui sont sur des processus qui sont racistes, il l'oppose en fin de compte, je veux dire, une approche humaniste du fait. Et donc l'humanisme consiste aussi à regarder l'histoire de France avec vérité. C'est-à-dire que la France a eu des positions qui ont été des positions condamnées, qui sont suffisamment aujourd'hui documentées. Et donc Jean-Luc Mélenchon est à la fois, je veux dire, pour mettre des mots de manière assez concrète, en prenant toute la responsabilité de ce qu'est un État, qui est un État à la fois, je veux dire, qui est un État humaniste, mais aussi qui est un État qui reconnaît sa responsabilité dans un ensemble de faits. Vous avez cité, bien sûr, les massacres de Guelma et Sétif. Et donc, du coup, il sera en possibilité de pouvoir les condamner précisément, mais aussi d'ouvrir un chemin des possibles, puisque l'objectif, c'est, après avoir condamné, d'être en capacité aussi de créer, entre guillemets, une harmonie entre, bien sûr, l'ensemble de celles et ceux qui constituent la France.
Alors, parmi les électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon, dans les quartiers populaires, il y a de nombreux travailleurs ubérisés qui finalement, sont des salariés déguisés. Ils travaillent comme des salariés, mais ils n'ont pas les mêmes droits puisqu'ils sont considérés comme des auto-entrepreneurs. Bali Bagayoko, Jean-Luc Mélenchon président, va-t-il leur permettre d'avoir les mêmes droits sociaux que les salariés?
Clairement, donc nous sommes pour déjà lutter contre la précarisation et principalement, je veux dire, sur l'ubérisation, qui est quand même aujourd'hui un traitement inhumain en réalité, je veux dire, l'excès, en fin de compte, du capitalisme, où finalement l'humain est exploité au maximum de ce qu'il peut produire. Et donc nous sommes pour revenir sur le droit, restaurer du droit, notamment pour toutes ces personnes, en fin de compte, je veux dire, qui tentent de vivre dignement de leur travail et qui aujourd'hui sont exploitées. Donc nous sommes pour instaurer un droit, la question de la lutte contre la précarisation avec des salaires qui soient à hauteur. Donc quand Jean-Luc Mélenchon propose 1400 minimum, je veux dire, en termes du SMIC, ben, ça permet aussi, à un moment donné, de pouvoir améliorer les conditions de pouvoir d'achat et aussi les revenus de ces personnes-là, mais nous sommes aussi pour intervenir à l'échelle européenne, parce que nous savons, voire internationale, mais européen précisément, parce que nous savons très bien que ces modèles-là ont aussi des résonances européennes, et je tenais particulièrement à saluer le travail conséquent d'ailleurs qui est fait par nos députés européens, en particulier la LHBI qui a eu l'occasion d'ailleurs d'intervenir, ou encore Manon Aubry qui ont eu l'occasion à la fois de pouvoir dénoncer ces faits-là et qui ont eu des résultats conséquents, mais le travail doit se poursuivre.
Est-ce qu'il y a un risque de forte abstention dans les quartiers populaires Bali, Bagayoko? Le vote des quartiers populaires peut-il être déterminant au premier tour le 10 avril?
Le vote des quartiers populaires en général sera de toute manière déterminant. Les quartiers populaires ont souvent été pointés comme étant absents en fin de compte d'un certain nombre de suffrages. Ils ne le sont pas plus que d'autres catégories socio-professionnelles. Mais il est vrai que aujourd'hui, ce sont ces quartiers populaires qui sont les plus impactés par les politiques qui sont mises en œuvre par Emmanuel Macron et son gouvernement. Et donc, l'élection de 2022 est en réalité l'élection des quartiers populaires. Et donc, il faut vraiment que l'ensemble de celles et ceux qui sont dans ces quartiers populaires-là en soient vraiment convaincus. Si nous voulons créer les conditions de pouvoir changer de cap réellement, il n'y a pas mieux qu'en fin de compte son bulletin. C'est une arme qui est suffisamment puissante pour pouvoir terrasser celles et ceux qui nous ont fait du mal pendant 5 ans.
Bali Bagayoko, qu'est-ce que vous dites aux électeurs de gauche qui trouvent beaucoup de qualités au programme L'Avenir en Commun, mais qui ont des doutes sur le candidat Jean-Luc Mélenchon? Ils l'ont vu énervé, ils se demandent s'il sera totalement démocrate, est-ce qu'il n'est pas trop complaisant avec Vladimir Poutine? Certains sont des électeurs écologistes, communistes, socialistes. Là, il y a peut-être cette question du vote utile au premier tour. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui ont peur de voter Jean-Luc Mélenchon alors que finalement, il partage l'essentiel de son programme?
En fait, la réponse est un peu là. C'est-à-dire que l'essentiel des militants, voire même des électeurs potentiels de gauche qui ont été sondés, reconnaissent que sur le programme L'Avenir en Commun, on est à peu près à une moyenne de 80-90% d'accord. Donc, ce n'est plus un sujet. Après, sur la question du doute de la capacité, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon à pouvoir diriger demain la France, il n'y a absolument aucun doute. Sur des caractères humains, sur le fait qu'il puisse être colérique, je préfère quelqu'un de colérique et plutôt quelqu'un de passif, voire quelqu'un, je veux dire, qui s'endort en responsabilité. Et donc, c'est véritablement de ça dont il s'agit. Et puis après, dernier aspect quand même, c'est-à-dire que aujourd'hui, le débat, il doit se poser en ces termes assez basiques, en réalité. C'est est-ce que vous voulez continuer à recevoir des coups de Emmanuel Macron? Vous voulez continuer à créer les conditions pour que le Front National, le Rassemblement National, les Zemmour et tous ces gens-là qui n'ont que la haine comme réponse pour les quartiers populaires? Ou est-ce que vous voulez créer les conditions pour que tout cela cesse et qu'on puisse revenir à quelque chose qui protège les populations et qui crée les conditions de pouvoir améliorer leurs conditions de vie?
Dernière question, Bali Bagayoko. Depuis quelques jours, des commentateurs et même Édouard Philippe disent que Marine Le Pen peut gagner face à Emmanuel Macron. Pour vous, le vote Mélenchon, ce serait la meilleure façon d'éliminer l'extrême droite du second tour?
C'est quasi le seul. Quand on regarde dans l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon vient encore de grappir, vient de gagner un point au moment où on parle. Donc il est parti à 9%, il est à 16%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la dynamique à gauche est clairement chez lui, mais surtout que sa progression commence, entre guillemets, je veux dire, à faire peur, et à la droite, bien sûr, donc incarnée par Macron, mais aussi, je veux dire, au Rassemblement National. Et donc, le seul vote qui peut permettre, entre guillemets, de contrarier ce plan macabre, c'est le 10 avril de voter massivement pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union Populaire.
Merci Bali Bagayoko. Je rappelle que vous êtes chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir et puis j'en profite pour souhaiter un bon ramadan à tous nos auditeurs. Merci.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.